Paul Gogo est notre correspondant BFM TV. Vous avez pu entrer donc à Mariupol, pardon. On vous a vu dans ce reportage. Bonsoir Paul. Racontez-nous qu'on comprenne bien quand même ce qui est en train de se passer. On parle là d'une ville qui a été détruite à plus de 90%, où des dizaines de milliers de personnes sont décédées, et moins d'un an plus tard, elle se transforme réellement en station balnéaire. C'est vraiment ça qui est en train de se passer à Mariupol ?
Oui, exactement. Hier, je suis allé d'ailleurs marcher sur les bords de cette plage de Mariupol, une plage que je connais depuis très longtemps, qui était un peu particulière jusqu'ici, parce que vous aviez les trains qui partaient de l'usine Azovstal, qui est aujourd'hui totalement détruite, et qui amenait le charbon ou le métal jusqu'au port de Mariupol. Et donc, les enfants, les familles devaient traverser ces chemins de fer pour aller sur la plage. Aujourd'hui, ces plages, elles sont en chantier. Il y a des engins partout sur le sable. Certaines parties sont en train d'être bétonnées. La Russie a investi énormément pour essayer, en gros, de créer une cité balnéaire qui commence donc par la plage d'un côté, de l'autre par le centre-ville. Le centre-ville, c'est un enjeu très important parce qu'il a été complètement détruit. Certaines parties de la ville n'ont été que partiellement détruites. Le centre-ville, il n'y a plus aucun habitant dans cette partie de la ville. Alors, les autorités ont commencé par le théâtre dramatique, d'art dramatique qui est en plein centre de la ville et qui a été bombardé pendant le siège par la Russie, qui avait occasionné des dizaines et des dizaines de morts. C'est un symbole. Donc, le chantier a recommencé sur ce théâtre. Et puis, tout autour, on essaye de, quelque part, de cacher la misère, pour dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on change les fenêtres, on essaye de repeindre les façades. Et puis, progressivement, on reconstruit à l'intérieur de ces immeubles. Ce qui m'a frappé, c'est que depuis mon dernier voyage, il y a un an, eh bien, dans cette rue principale de Mariupol, il y a aujourd'hui des terrasses, des restaurants, des terrasses, des cafés qui viennent de réapparaître. Certains ont ouvert il y a 2 à 3 mois. Et les Russes qui partent en vacances en Crimée en évitant le pont de Crimée qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup d'embouteillages parce qu'il y a des contrôles très stricts, eh bien, certains passent par ces territoires occupés et passent par le centre-ville de Mariupol et s'arrêtent alors en plein milieu des décombres pour manger une pizza ou boire un café en terrasse. Et c'est évidemment assez troublant à observer.
C'est une situation assez US. Paul Gogo, qui vit maintenant à Mariupol ? C'est principalement des Russes ?
Alors, c'est difficile à dire parce que déjà, on ne sait toujours pas combien de personnes sont mortes pendant le siège de la ville. Moi, là, ce soir, je vous parle depuis un de ces immeubles qu'on voit dans le reportage, un immeuble qui vient tout juste d'être construit. Alors, c'est pas tout à fait normal que je vous parle depuis cet immeuble parce que ce sont des immeubles qui ont été construits pour les habitants de Mariupol, ceux qui se sont retrouvés sans logement à l'issue du siège. Si moi, je me suis retrouvé en position de pouvoir louer temporairement cet appartement, ça veut dire que des gens ont trouvé un moyen d'acheter l'appartement et de l'utiliser à des fins commerciales. Alors ça, c'est une façon de faire, mais il y a surtout ce vrai problème pour les habitants qui voient ces immeubles qui ne sont pas de très bonne qualité, hein, pour le dire franchement. Je pense que là, tout l'immeuble m'entend vous parler ce soir. Les habitants qui voient ces immeubles qui leur étaient destinés progressivement glisser dans le secteur privé. Et donc, vous avez des Russes qui viennent, qui investissent, un investissement qui peut paraître risqué parce que les habitants se demandent si la guerre reviendra un jour ici. Mais ces Russes investissent en se disant que peut-être que dans 5 à 10 ans, Mariupol sera une cité balnéaire à la mode. Et donc, ils tentent d'acheter ces appartements. Résultat, vous avez d'un côté ces Russes qui viennent de Russie, qui investissent à Mariupol, et de l'autre, les habitants de Mariupol qui ont tout perdu, et parfois même les papiers qui leur permettaient de prouver qu'ils étaient propriétaires d'un terrain durant les bombardements, et qui n'ont plus d'argent, qui ne sont pas en capacité d'acheter des appartements comme le font les Russes.
Merci beaucoup, Paul. Poutine qui reconstruit Mariupol et qui en fait une vitrine du pouvoir en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe autour de Vladimir Poutine en ce moment ? On a appris hier le remplacement de son très fidèle Sergueï Shoigu, ministre de la Défense, dont on croyait qu'il était extrêmement proche. Il l'a remplacé au poste de ministère de la Défense par Andrei Belousov, un économiste de formation qui, tout comme Shoigu d'ailleurs, n'a aucune formation militaire. Pourquoi, à votre avis, Ulysse Gosset ? Que s'est-il passé ?
Alors d'abord, le ministre de la Défense Shoigu, c'est vrai, quitte son poste, mais il n'est pas mis à l'écart puisqu'il devient le patron du Conseil national de sécurité. Il remplace le célèbre Patrouchev qui avait été l'homme clé de l'invasion en Ukraine et qui contrôle tous les services de renseignement. Donc, il reste dans l'appareil de sécurité, dans le système Poutine, à un poste très important. Et il reste l'ami de Poutine, l'ami de 30 ans, si j'ose dire, avec lequel il est chassé dans la taïga. Donc, il n'est pas mis à l'écart. Par contre...
Donc, il n'est pas limogé, c'est pas comme ça que vous l'interprétez.
Il perd son job du ministre de la Défense, mais il retrouve un autre poste, si vous voulez... Le Conseil national de la sécurité, c'est vraiment l'organe suprême qui contrôle tout, la défense, les services de renseignement et qui protège Poutine. C'est vraiment le cœur du système Poutine. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, Shoigu n'était pas aimé des militaires et c'était pas lui-même un grand militaire. La preuve, il a raté l'invasion de l'Ukraine en 2022 et les progressions de l'armée russe, bon, même si elles sont réelles, restent du grignotage pour l'instant. Donc, il n'a pas vraiment brillé à son poste. Mais il est remplacé par un homme et c'est là où ça devient extrêmement important et c'est surtout la stratégie de Poutine sur le long terme qui est dévoilée là. C'est un homme de 65 ans, un économiste, Andrei Belousov, qui a pour mission de transformer le ministère de la guerre en ministère de l'économie de guerre. Et comme
alors,
on sait,
justement...
l'art de la guerre, c'est l'économie. Et il va devoir transformer ce ministère pour que, dans la durée, c'est-à-dire qu'il faut se préparer à une guerre longue, il transforme l'économie russe à 100% en économie de guerre. Parce que la Russie a besoin de tanks, de drones, d'armement, et elle a besoin d'une armée qui est organisée, qui est économiquement
alors justement...
viable.
Ulysse, ce choix d'Andrei Belousov, on va en parler avec Lisa Hadef qui nous a rejoint. Qui est-il vraiment, ce nouveau ministre de la Défense, Lisa ?
Comme le disait à l'instant Ulysse Gosset, Andrei Belousov a 65 ans, c'est un économiste. Le nouveau ministre de la Défense n'a aucune formation militaire, mais il a déjà fait de la politique en Russie, principalement dans le domaine économique. Il est d'abord conseiller du Premier ministre, puis vice-ministre en charge de l'économie. Andrei Belousov deviendra aussi directeur du département de l'économie et des finances au sein du gouvernement. Et très vite, il dirigera aussi le ministère du développement économique. Plus tard, il est le conseiller de Vladimir Poutine et va même jusqu'à remplacer le Premier ministre quand il est malade du Covid en 2020. Bref, Andrei Belousov a la confiance du président.
Alors justement, que sait-on de leur lien entre lui et Vladimir Poutine ?
Andrei Belousov est considéré comme un proche de Vladimir Poutine. Il partage la même vision d'une identité russe forte. Andrei Belousov exercerait une certaine influence sur les décisions liées à l'économie, notamment et surtout depuis les sanctions occidentales. Il a notamment organisé une commande de drones pour environ 49 millions d'euros et finalisé un projet à environ 7 milliards d'euros pour la production de dizaines de milliers de drones jusqu'en 2030.
Sa vie privée, on en sait quelque chose
sur
ou pas ?
Sa vie privée, on ne sait pas grand-chose.
J'ai failli rater cette petite relance, Lisa.
Si ce n'est que ce nouveau ministre de la Défense, sans aucune formation militaire, a pratiqué les arts martiaux, le karaté et le sambo. Le sambo, c'est un mélange de judo, de boxe et de lutte créé en URSS avant la Seconde Guerre mondiale.
Mais aucune formation militaire, c'est ce qu'on disait, tout comme son prédécesseur, Sergueï Shoigu. Général Vincent Desportes, quel est votre regard ? Est-ce que c'est un bon choix, ce nouveau choix de Vladimir Poutine ?
Il est évident que je ne vais pas vous répondre, parce que je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une évolution. Je crois que M. Gosset a raison de dire que Poutine a compris que cette guerre était une guerre d'usure et que les guerres d'usure ne se gagnent pas par les armées, elles se gagnent par les économies et par les sociétés. Et que donc, il se met en ordre de bataille pour une guerre qui va durer longtemps, à un moment où nous-mêmes sommes extrêmement loin d'être en économie de guerre et extrêmement loin de pouvoir aider l'Ukraine sur le long terme. Donc je pense que la stratégie de Poutine, en ce qu'elle s'exprime par ce changement de ministre, est parfaitement avisée, parfaitement adaptée à son choix d'une guerre longue, à sa croyance dans le fait que la Russie est résiliente et que c'est sa résilience qui finira par l'emporter. Comment l'emportera-t-elle ? On ne sait pas. Est-ce qu'elle percera à Kharkiv ou est-ce qu'elle percera à Divka ? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il veut faire. Et à un moment donné, ça se passera. Et on ne peut pas planifier sur le meilleur. Nous devons planifier sur le pire et le comprendre tout de suite. Ça va arriver à un moment donné. On ne peut pas planifier sur l'usure des troupes russes qui ne sont pas usées, qui ont la profondeur stratégique, qui ont la profondeur démographique. Poutine l'a compris et il est temps que nous, les Occidentaux, l'Europe, nous nous mettions en ordre de bataille.
Ulysse, ensuite, je donne la parole à Guillaume Ancel.
On ne sait pas si la percée aura lieu. C'est bien vrai, la question de l'année, si j'ose dire. Est-ce que Poutine, d'ici l'été, réussira à percer le front russe ? On voit l'inquiétude des Américains qui disent « Nous faisons l'impossible pour donner un maximum d'armes à l'Ukraine. Et maintenant, ils ont intérêt à se dépêcher parce qu'effectivement, le péril menace. Mais l'autre chose qu'il faut bien voir, c'est que donc on a un nouveau ministre qui est le ministre, non pas de la Défense, mais le ministre de l'économie de guerre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'armée russe d'aujourd'hui, celle qui combat à Kharkiv et ailleurs, c'est pas la même armée que celle de février 2022 qui a tenté d'envahir l'Ukraine. C'est une nouvelle armée, c'est-à-dire qu'elle a eu le temps de se reconstituer par tous les moyens, avec des pertes considérables, avec du recrutement forcé, notamment dans les républiques d'Asie centrale, etc. Mais c'est une armée qui a appris aussi de ses défaites. Parce que les Russes, c'est vrai, ont beaucoup de défauts, mais ils ont aussi quand même des militaires et des généraux qui ont fait leurs écoles de guerre et qui ont été capables de revoir la situation et peut-être aux dépens de l'Ukraine. C'est bien ça le danger aujourd'hui. C'est que cette nouvelle armée russe, entre guillemets, c'est pas simplement les habits neufs, c'est qu'elle sait maintenant comment combattre en Ukraine. Regardez ce que vient de nous être dit par les ADF. Le nouveau ministre de l'économie a commandé 40 000 drones pour des millions de dollars. Il sait où est la guerre moderne. C'est la guerre des drones. Alors certes, il y a l'artillerie qui bombarde aujourd'hui tous les jours à Kharkiv de façon tragique. Et ce que fait Poutine à Kharkiv, il veut le faire comme à Grozny en Tchétchénie, comme en Syrie. Il bombarde. Il veut détruire, épuiser les civils, les forcer à quitter la ville. Mais il a compris aussi qu'il y avait une guerre moderne qui se jouait maintenant. Et donc, avec ce remaniement assez incroyable,
c'est radical. Insiste,
mais qui conserve quand même pour Poutine le pouvoir, c'est-à-dire qu'il reste l'homme qui décide. Eh bien, on voit que se dessine cette Russie qui se prépare, alors que nous ne sommes pas encore prêts à cette économie de guerre qui va durer peut-être des années.
Mais Guillaume Ancel, j'en reviens à Sergueï Choïgou, c'est quand même pas anodin qu'il soit remplacé, lui qui avait survécu à tout, même la révolte avortée de Yevgeny Prigojine. On s'était posé la question, est-ce qu'il va être écarté parce qu'il a rien vu venir, etc. Il a rien fait. Il était maintenu. C'est pas anodin qu'il soit écarté. Alors certes, on lui confie un autre très bon poste, il devient secrétaire du Conseil de sécurité, comme le rappelait Ulysse, mais voilà, c'est pas anodin que Sergueï Choïgou soit écarté de ce poste-là.
Il faut faire très attention aux apparences. Là, Choïgou a clairement été limogé. C'est pas parce qu'il est atteint par la limite d'âge et qu'il rejoint une retraite méritée. Il a été sorti de ce poste, sachant que peu de temps avant, son vice-ministre a été limogé, mais lui, il a été arrêté, envoyé directement en prison. Je rappelle que c'était l'homme qui était en charge, notamment, de la reconstruction de Marioupol.
Rappelez-nous son nom.
Alors, le vice-ministre, c'était Timur Ivanov, je vais arriver à le prononcer, qui a été arrêté le mardi 23 avril. Et on est absolument persuadé aujourd'hui que s'il a été arrêté dans ces conditions, c'est parce que, en fait, pas parce que Poutine en avait assez de ses magouilles, c'est parce qu'en réalité, il avait décidé de mettre fin aux fonctions de Choïgou et qu'il fallait l'affaiblir, bien sûr, alors que l'autre était son homme lige. En fait, le limogeage de Choïgou nous dit surtout que c'est un échec de l'armée russe. L'armée russe, c'est vrai, ne ressemble plus à celle de février 2022, mais elle est terriblement affaiblie. Elle est affaiblie par le fait qu'en 2 ans, elle a subi des pertes considérables, et en particulier de son encadrement. Un encadrement, il faut des années pour le reformer. Elle a perdu énormément de matériel dans des offensives qui n'avaient aucun sens et dans lesquelles les militaires ont dit à Poutine qu'il ne fallait pas aller. Mais lui les a obligés.
Oui, et en fait, c'est ça qui reproche à Choïgou. Elle a stoppé la contre-offensive ukrainienne, il faut voir les choses en face.
Stopper la contre-offensive ukrainienne, c'est vrai.
L'armée russe affaiblie, elle gagne du terrain aujourd'hui.
Une armée russe qui se retrouve dans la situation de l'armée ukrainienne il y a 7 mois. Vous vous souvenez qu'en octobre dernier, on attendait tous que l'armée ukrainienne arrive à percer. Oui. Elle n'y est pas arrivée. Et à ce moment-là, on a dit, les Russes vont reprendre l'ascendant, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est eux qui risquent de percer, effectivement, les lignes de défense russe, de défense ukrainienne. S'ils étaient arrivés à percer, là, effectivement, il y avait un risque qui déstabilise l'armée ukrainienne. Mais en réalité, dans cette période où les Ukrainiens ont été peu soutenus, les Russes ne sont pas arrivés à percer. Et tant que vous n'arrivez pas à percer ces lignes de défense, tout le reste, ce sont des démonstrations de force, y compris quand Poutine, lors de la fête de la victoire, nous rappelle qu'il a des forces stratégiques nucléaires. Pardon, mais tous les mois, il nous rappelle ça. En réalité, c'est surtout un aveu de faiblesse. Aujourd'hui, en dehors de grignoter la frontière sur quelques kilomètres, il ne sait pas avancer. Son armée est épuisée. Et je rappelle une chose qui est fondamentale. C'est que Poutine est un homme du KGB. Il déteste les militaires et les militaires le détestent. Choïgou était un espèce d'interface entre les deux, mais son armée lui rend bien le fait qu'elle n'a absolument pas confiance. C'est Poutine qui dirige les opérations militaires et va de catastrophe en catastrophe.
Qu'est-ce qu'il va devenir, Sergueï Choïgou? Donc, il a ce poste donc de secrétaire du Conseil de sécurité.
Il reste parce que d'abord, Poutine a besoin de gens dont il est absolument sûr. Et il faut savoir que Shoigu est un personnage particulier. Belousov aussi est d'ailleurs un personnage particulier. Shoigu est un personnage particulier parce que c'est un Russe de la frontière chinoise. Il est d'ethnie chinoise, ça se voit. Il n'a pas un réseau à Moscou parce que ces choses-là comptent énormément dans l'establishment russe. Il faut d'ailleurs voir qu'il a un palais presque aussi gros que le gigantesque palais filmé par Navalny de Poutine, mais celui de Shoigu ressemble à une pagode avec 150 chambres et des choses comme ça. Et donc, la seule façon pour lui de se maintenir, c'était ce qu'on a raconté, les chasses à l'ours dans la taïga, les pique-niques en pleine forêt, les saunas, je ne vais pas rentrer dans les détails des saunas, mais tout ceci, ça fait partie de quelqu'un qui se rattrape complètement à un seul système, parce que personne ne va l'aider le jour où il tombera vraiment. Et l'autre chose, c'est que Shoigu était arrivé remplaçant un précédent ministre de la Défense qui avait décidé que l'armée russe souffrait énormément et souffre encore aujourd'hui d'une immense corruption. C'est-à-dire que l'argent qu'il y avait pour acheter un bataillon de tanks, il partait acheter des villas en Italie et des appartements à Londres. Et en France. Et Shoigu, et donc, il s'est évidemment fait des ennemis, parce que quand vous empêchez les gens de faire ce genre de choses, ils sont pas contents. Tous les généraux touchaient. Une partie de la guerre tchétchène, elle s'est passée d'ailleurs dirigée directement par les généraux sur place, avec pratiquement aucune intervention de Moscou. Et donc quand Shoigu arrive, il arrête immédiatement toutes les procédures, il arrête tout ça. Et donc l'armée est toujours dans un état épouvantable. Je ne pense pas qu'ils ont beaucoup réparé le système qui fait qu'on envoie simplement des bottes, des armes, des équipements aux soldats. Ceci alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la mort des gens dans l'encadrement, et notamment les sous-officiers. L'armée russe a toujours souffert de ne pas avoir autant une culture de sous-officiers que, par exemple, l'armée britannique. Et le résultat, c'est que, moi je suis Guillaume Ancel sur ça, l'arrivée d'un économiste qui est un des meilleurs économistes russes et qui est un politique avec un profil totalement unique
au poste de ministère
de la Défense, ça ne va pas faire grand-chose pour l'armée elle-même.
Sauf qu'il veut redresser l'économie russe. C'est un fidèle de Poutine. Il veut faire le grand nettoyage. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que d'abord, tout le monde n'avait pas vu venir le remplacement de Shoigu, les mystères du Kremlin. Et ça veut dire qu'il se passe quand même beaucoup de choses. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe à l'état-major russe. Qui va diriger la guerre? Est-ce qu'il y aura d'autres nominations? Et c'est là où on pourra, avec certitude, analyser ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, ça reste
un peu mystérieux. Flou. Merci beaucoup. Merci, Général Vincent Desportes. Merci, Guillaume Ancel. Et merci, Ulysse Gosset.